Le 25 mars, l'Union interfédérale des transports d'Auvergne-Rhône-Alpes a organisé une journée d'études à Lyon. Il y avait des cheminots, traminots, chauffeurs de bus ou routiers, des contrôleurs aériens, des constructeurs de camions et de bus. Il y avait également des camarades de l'Interpro. Pour Radio CGT, c'était l'occasion rêvée pour recueillir les paroles des participants. Cette émission est donc consacrée aux enjeux du transport, à ses aspects sociaux bien entendu, mais aussi environnementaux, économiques ou d'aménagement du territoire. Nous vous proposons donc 6 rencontres qui aborderont chacune un aspect de la question. Nous allons commencer avec Jackie Albrand, l'animateur de l'UIT Aura qui nous parlera organisation de la lutte, puis Fabrice Faure sur les différents enjeux revendicatifs.
Bonjour Jackie.
Bonjour Agnès.
Donc la CGT en Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de créer une unité, UIT. C'est un outil pour travailler sur les transports, parce que les transports c'est très structurant pour l'aménagement du territoire, c'est très structurant pour les salariés, hein, pour se rendre au travail, avec des lieux de vie qui sont de plus en plus éloignés du lieu de travail. Mais c'est aussi... au travers de ce travail sur les transports, d'engager les transitions écologiques et puis de regarder aussi la situation des salariés, tant sur leur statut social que sur toutes leurs conditions de travail et leur rémunération. Enfin, voilà, un gros, gros, gros sujet. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'UIT et quel plan de travail vous avez décidé ?
Alors l'UIT, c'est l'Union Interfédérale des Transports, donc c'est un outil confédéral qui est composé de plusieurs fédérations, donc la Fédération des Transports, la Fédération des Cheminots, la Fédération de l'Équipement, la Fédération des Officiers de Marine Marchande et la Fédération des Marins. Alors on a eu notre conférence il n'y a pas très longtemps et un des objectifs qui a été réaffirmé et qu'on tente aujourd'hui de remettre en œuvre de façon active, c'est de relancer les UIT en région. Et donc, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu, à un moment donné, un UIT qui fonctionnait relativement bien. Les parcours de vie et de militants ont fait qu'on a eu du mal à maintenir cette activité. Et là, on a donc décidé, en lien avec d'ailleurs le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes, CGT, de relancer un UIT en région et donc pour, comme tu l'as dit, travailler sur un certain nombre de questions, puisqu'on sait qu'effectivement les transports c'est très structurant en termes d'aménagement du territoire. On a aussi un enjeu écologique, hein, de développement humain durable, et donc on essaye à partir de ces deux éléments-là, l'aménagement du territoire, ces enjeux écologiques, mais également les réponses aux besoins des citoyens, d'essayer de travailler et de converger vers ce que nous, on pense, ce qui serait nécessaire en termes de transport pour répondre à ces trois objectifs. Alors bien évidemment, ces trois objectifs ont aussi des impacts sur les conditions sociales des agents. Donc c'est pour ça que la CGT s'en préoccupe, parce que les réponses aux besoins, c'est aussi les réponses aux besoins des salariés qui vont mettre en œuvre ces politiques de transport. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on relance l'activité UIT en région. On a la chance aujourd'hui que l'ensemble des composantes, et parfois même au-delà, veulent s'investir sur ces questions-là, parce que ça touche aussi parfois à la question des filières industrielles, parce que c'est aussi une filière importante pour le transport, hein, parce qu'il y a des infrastructures, il y a du matériel roulant, il y a des équipements nécessaires, et donc on va essayer de voir comment, en travaillant en réseau, en se fixant des objectifs qui soient raisonnables, hein, parce qu'après, on a les forces militantes qu'on peut avoir et les ressources qu'on peut avoir. Et donc, il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables. Et donc, on a lancé une première journée d'études. Il y a eu des débats intéressants avec pas mal de propositions qui ont été faites. Et maintenant, il faut qu'on essaye de trier tout ça, de voir quelle feuille de route on peut se fixer et revenir vers ceux qui veulent effectivement s'investir sur cette question du transport.
Merci, Jackie. Bonjour, Fabrice.
Bonjour.
Donc nous sommes sur l'enjeu des transports qui intéresse aussi la métallurgie, puisque de développer les modes de transport impacte forcément et interpelle la métallurgie sur la construction du matériel, l'évolution des motorisations pour répondre aux transitions écologiques. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu les propositions de la métallurgie dans ce domaine ?
Oui, alors les questions de transport, elles sont transverses, parce qu'effectivement, il y a le transport de personnes qui est du service public, donc le payeur, c'est le contribuable, Sauf que les lobbies et les industriels passent beaucoup de temps pour contraindre et faire pression, que ce soit de manière énergétique. Et donc là-dessus, on a des réponses à des besoins pour répondre aux questions de transport de personnes. Et puis, bien sûr, il y a la question du fret, de la marchandise, où là aussi, il y a besoin de réfléchir de par les questions environnementales qui sont prégnantes et qui sont indispensables pour tout le monde, pour la qualité de l'air, mais aussi pour la question de mieux répondre aux besoins, parce qu'il n'est pas question de ne pas répondre aux besoins, mais par contre, comment on répond à ces besoins. Et donc, particulièrement, ça pose la question des motorisations sur les véhicules, que ce soit pour le transport de personnes ou de fret. À titre d'exemple, il faut savoir que la consommation moyenne, selon les normes internationales, c'est 33 litres de gasoil. Si je prends dans l'entreprise Renault Trucks où je travaille, on est à peu près à 28 litres de gasoil. Rien que sur le contournement de l'agglomération lyonnaise, c'est 17 000 poids lourds jour. Sachant que si on ramène ça à 100 km, c'est donc à peu près 530 000 litres de gasoil. Donc qui dit 530 000 litres de gasoil, c'est des particules, c'est des choses. Enfin voilà. Donc il y a les enjeux énergétiques. Il y a les enjeux aussi de qualité de l'air et de santé, parce que qui dit pollution, c'est aussi un coût pour la société en termes de santé des personnes. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser ces questions aux seules mains de décisionnaires qui vont le regarder uniquement sur le focus financier, mais qu'on le prenne bien dans cette globalité et en faisant des propositions. Et d'autant plus que du tout diesel, la question de passer au tout électrique est une mauvaise réponse. Il faut qu'on adapte les réponses de motorisation en fonction de l'usage et notamment sur la question du dernier kilomètre où beaucoup de choses sont posées.
Mais justement, comment adapter? Parce qu'il y a la guerre en Ukraine, on est dans une crise énergétique folle, on n'a pas forcément les moyens de produire de l'énergie qu'on appelle verte sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes et globalement en France. Est-ce que vous avez réfléchi à...
C'est-à-dire que si on réfléchit au périmètre existant, à ce qui est déjà existant, effectivement, on peut s'interroger. Après, je travaille avec les camarades de Miné Énergie, donc c'est une vraie question. Mais il y a la question aussi de nouveaux moyens. Si on prend dans la région, par exemple le Nord-Isère où j'habite, il y a plein d'entrepôts qui ont été construits avec des toitures qui ne servent à rien. On a une entreprise à Bourgoin-Jallieu qui s'appelle Photowatt, qui fait la dernière entreprise française de panneaux photovoltaïques. Imaginons toutes ces surfaces qui ne sont aujourd'hui pas utilisées, recouvertes de panneaux photovoltaïques. Ça peut être un moyen pour développer une ressource, le solaire, et qui, bien sûr, il y a un débat sur la question de la pollution, sur le retraitement des panneaux photovoltaïques, mais voilà, prenons les choses point par point. Mais donc, il peut y avoir des réponses, sauf que là, encore une fois, ça demande à la fois des réponses politiques, mais à travers ces réponses politiques, c'est aussi la question des normes. Si je reviens sur les motorisations diesel, s'il n'y avait pas eu le Dieselgate, avec l'histoire du scandale du groupe Volkswagen, est-ce que les normes auraient bougé en Europe et dans le monde comme elles ont bougé? Non, ça a été une prise de conscience de tout le monde sur le besoin qu'il y a effectivement de contraindre et donc de mettre des normes pour obliger les industriels à investir dans des recherches de moyens alternatifs pour les motorisations. En plus, quand on parle de motorisation, on jette un petit peu trop vite le moteur dit atmosphérique, même s'il est turbo-compressé ou quoi, mais peu importe, on va dire le moteur classique. Parce qu'un moteur classique, certes, il tourne avec de l'essence ou du gasoil, mais il tourne aussi avec du GNV ou du biocarburant, et il peut tourner aussi avec de l'hydrogène. Alors ça pose la question aussi de l'hydrogène, etc. Mais enfin voilà, d'une industrie tout carbonée, il y a d'autres solutions qui sont possibles, mais ça nécessite de la volonté politique, de contraindre évidemment les décisionnaires que sont les industriels, et surtout que les choix stratégiques soit mis dans les mains de tout le monde, dans une grande transparence, pour que les choix soient faits, mais soient faits en connaissance de cause, et non pas laissés à la mainmise de quelques dirigeants qui en plus paye très cher des lobbyistes pour faire la pression et contraindre les usagers ou les salariés que nous sommes. Et en plus, c'est un enjeu, ces questions environnementales, c'est aussi un enjeu de société parce que aujourd'hui, quand même, le flux de transport, il y est aussi à la politique du capital qui est de produire là où c'est moins cher. Et donc, on oublie très souvent dans ces coûts-là de regarder le coût, évidemment, sociétal, en termes d'emploi, de tout ça, mais aussi en termes de santé.
Quel est le principe du moteur à explosion ? L'énergie thermique produite par combustion. Quelle est sa dynamique et ses multiples fonctions? Voyons le principe du moteur à explosion. La soupape d'addition souffle le piston aspirant ainsi le carburant. Le piston comprimant remontant le carburant. Ensuite a lieu le troisième temps. Les soupapes étant fermées, le piston redescend. Les soupapes s'ouvrent, le piston pousse en montant. Le piston pousse en montant et tout ce système fonctionne en utilisant l'énergie thermique du mélange carburant. Aspiration, compression, temps moteur, expulsion sont les données de la propulsion. Mais attention, nous ne parlons ici que des types de moteurs à explosion. Oui, quel est le principe du moteur à explosion? Quel est le principe du moteur à explosion?
Voilà. Le principe d'explosion. Le principe d'explosion.
Quel est le principe du moteur à explosion?
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 Produite par combustion, produite par combustion, 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 combustion.
Oh, voilà le principe du moteur à explosion.
Mais non, mais non.
Excusez-moi,
mais je vous en prie.
Voilà le principe du moteur à explosion. Qui fut à l'époque une vraie révolution. Une vraie révolution, une vraie révolution.
Après cette pause musicale avec le groupe Chanson plus Bifluoré, nous allons retrouver Antoine Fatiga qui nous parlera du développement du ferroviaire avec l'exemple du Lyon-Turin et Yacine Toutounji sur les enjeux du transport aérien.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Donc la CGT, hein, la Confédération, la Fédération des Cheminots, mais aussi le Comité Régional, la Fédération des Transports, l'UIT, ont réaffirmé leur position favorable au Lyon-Turin. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le Lyon-Turin ? Et pourquoi la CGT est favorable à cette liaison ferroviaire ?
Alors d'abord, il faut bien voir que ce qu'on appelle ce tracé du Lyon-Turin, c'est un tracé qui est dans une géographie beaucoup plus vaste. Hein. En fait, c'est un des éléments manquants du réseau de transport européen pour les marchandises. Et en gros, c'est un des maillons manquants, en plus, qui va du côté de l'Espagne jusqu'à de l'autre côté, je dirais presque la Russie. Donc on voit bien que c'est ce maillon-là qui manque, qui est un maillon important. La deuxième raison, et je rappelle que la position de la CGT est quand même constante depuis les années 79-80, en faveur de cette réalisation, c'est aussi parce que pour nous, c'est un projet à la fois social, économique et environnemental. Environnemental parce qu'il permet de passer 40 millions de tonnes de marchandises qui aujourd'hui passent sur la route, de les passer sur le rail. Et c'est cet enjeu-là aussi qu'il faut faire mesurer, que si nous n'avons pas d'infrastructure, on ne peut pas répondre à l'enjeu environnemental et en fait au fait de répondre à tout cet enjeu qui est aussi économique et social.
En fait, il faut bien voir qu'aujourd'hui, c'est un chantier. Il y a 20%, du trou qui a été creusé. Hein, donc, on voit bien qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on relie ce chantier-là au réseau ferroviaire existant. Donc, c'est tout le débat qu'il y a eu sur le contournement ferroviaire lyonnais et sur les voies d'accès à ce tunnel, hein, donc sur lequel la CGT a rappelé sa position qu'elle était d'abord pour une priorité fret, qu'il fallait absolument qu'il y ait des infrastructures de transport, et que dans un deuxième temps, il y aurait une priorité voyageurs à mettre en œuvre pour le passage par Chambéry. Et puis la CGT a aussi réaffirmé, mais cela avec les syndicats du côté Piémont et du côté du Val d'Aoste, dans le cadre du comité syndical interrégional, qu'il fallait que pour les salariés qui soient sur le chantier, il y ait un niveau social qui soit identique aux deux pays et le plus haut possible. C'est pour cela d'ailleurs que le comité régional CGT a toute sa place et nous l'occupons au sein du comité syndical interrégional et nous occupons aussi toute notre place sur le chantier. Je rappelle quand même que c'est grâce à la CGT si aujourd'hui il y a une démarche grand chantier qui se déroule à Saint-Jean-de-Maurienne ou à Saint-Michel-la-Porte, là où il se creuse aujourd'hui le tunnel. Aujourd'hui, le chantier était prévu pour être fini en 2030. On sait que ce sera autour de 2032-2035. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, hein, c'est comment est-ce qu'on n'arrive pas à faire des infrastructures plus vite par rapport à l'enjeu environnemental. Et il nous semble que de ce côté-là, il ne faut pas qu'on oublie que face à l'enjeu climatique, eh bien, il y a intérêt à mettre en place des infrastructures de transport collectif. Là, on parle bien sûr d'une infrastructure ferroviaire pour le fret, mais ça en est du même niveau pour le voyageur. Sinon, au bout du bout, on le voit bien, ce sont les autoroutiers qui gagnent et aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent.
Bonjour Yacine, tu es militant CGT dans l'aviation civile. Est-ce que tu peux nous parler de la situation du secteur aérien? Alors bien sûr, vu de Saint-Aix, qui est ton aéroport, dans un contexte, après la crise sanitaire, avec le contexte géopolitique qu'on sait, et puis aussi tous les aspects climatiques.
Bonjour, je suis secrétaire de section locale à Lyon. Alors comme tu le mentionnes, le contexte est particulier post-Covid. Il y a eu évidemment une chute importante de du trafic aérien qui impacte notre administration. Donc là, le contexte, il est un contexte de reprise progressive du trafic. On n'est pas revenu au taux d'avant. Ça a des impacts en local. Ça affecte des situations qui parfois étaient déjà entamées pour certains et certaines de nos collègues. La question de regroupement de certains services. On a connu localement ce qu'ils ont appelé une modernisation des fonctions administratives. Alors modernisation, ça veut dire un regroupement pour un peu faire de la rationalisation des petites économies. C'est quelque chose qui affecte certains des collègues et qu'on regrette et contre sur lequel on s'est opposé avec malheureusement peu de leviers. Parfois des soucis d'effectifs sur certains centres pour assurer le service même avec un trafic réduit, puisque de toute façon ça change pas forcément la nécessité d'agents présents. Voilà, donc on aurait pu aussi espérer que cette crise soit l'électrochoc pour un peu repenser la question du trafic aérien, de son volume, même si ce n'est pas des questions qu'on peut traiter ni localement ni dans les médias. C'est malheureusement pas le cas. Donc ça, moins de trafic, ça aurait pu peut-être poser la question de comment aller à l'avenir sans forcément se dire qu'on doit revenir au 100% de trafic près 2020.
On sait que le secteur aérien va être dans une situation compliquée s'il y a une véritable intention d'atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Sur Lyon Saint-Aix, c'est plutôt quel style de destination qu'il y a ?
Alors, il y a un peu d'international. Enfin, il y a de l'international sur l'aéroport, Europe, Afrique du Nord. C'est pas non plus un hub comme ça pourrait être le cas à Paris ou quoi. On n'est pas sur des beaucoup de longs courriers. En France, en fait, des vols pour la France. Donc, c'est un débat qui pour le coup, fait partie du paysage politique français, même si ce n'est pas le débat le plus présent. C'est vrai que la question de savoir les vols pour la France, est-ce que ça a un intérêt par rapport au ferroviaire qui peut proposer cette solution ? Oui, ça peut effectivement nous affecter. Mais c'est vrai que là, dans l'immédiat, c'est des questions où, en local, malheureusement, elles sont difficiles à aborder. On est beaucoup dans la protection de nos collègues, de leurs conditions de travail. Et c'est vrai que ça laisse peu de place à un débat qui envisage une vision un peu plus long terme.
L'eau, 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 l'eau. caisse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. L'avion est détourné, détaché. Libérez vos complexes, tenez-vous par l'index, surveillez vos réflexes, en avant l'aventure. Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air, toute ma vie j'ai rêvé de voir le bas d'en haut, toute ma vie j'ai rêvé d'avoir des talons hauts, toute ma vie j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. L'avion est détourné, nous sommes en altitude. Perdez vos habitudes, changez vos attitudes. Tout le monde se dénude, fini la série. Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie j'ai rêvé de ne plus jamais passer par les bas et les hauts de notre petite terre. Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Fini le pilotage. Vive le pelotage, fini le décollage, mais vive le collage. L'avion est détourné, on en est tout retourné. Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air, toute ma vie j'ai rêvé d'avoir des talons hauts, toute ma vie j'ai rêvé de voir le bas d'en haut, toute ma vie j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Lo-i-lo-i-lo, 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 lo-i-lo-i-lo.
Après nous être envoyés en l'air avec Jacques Dutronc, nous allons finir cette émission avec deux luttes locales. Une en Ardèche, autour de la réouverture de la ligne de chemin de fer aux voyageurs, avec Laurent Aubelot du secteur cheminot de Lyon, et une à Grenoble, où Mariano Bonnat nous parlera du collectif pour la gratuité des transports. Bonjour Laurent, tu es militant CGT sur le secteur cheminot de Lyon. La CGT soutient la réouverture de la ligne voyageurs sur la rive droite du Rhône. Peux-tu nous expliquer le projet ?
Alors c'est effectivement une, je dirais entre guillemets, une vieille revendication de la CGT cheminot, cette réouverture de la rive droite, puisqu'il y a plus de trains de voyageurs dans l'Ardèche depuis 1973. Donc nos syndicats de sites sont mobilisés depuis déjà plus de 30 ans sur le sujet. Et il faut dire que jusqu'à présent, quelles que soient d'ailleurs les majorités politiques au conseil régional, des élus locaux, etc., peu de choses ont évolué sur le sujet. Aujourd'hui, il y a une ouverture dans ce dossier, c'est la réouverture de la rive droite côté sud, donc côté région Occitanie, où les trains vont monter de Pont-Saint-Esprit à Avignon et faire un demi-tour, comme on dit en termes SNCF, pour des questions d'exploitation. Les trains vont monter jusqu'au Teil, mais sans voyageurs, et repartir dans le sud sans voyageurs. Et nous, on considère là qu'il y a une contradiction. Si le train arrive jusqu'en gare du Teil, il faut qu'il puisse prendre des voyageurs à la montée comme à la descente.
Et en quoi le projet que vous soutenez, c'est une réponse aux besoins sociaux, environnementaux ?
C'est justement la première revendication, c'est qu'il faut, en matière ferroviaire et aussi bien fret que voyageurs, c'est justement d'identifier les besoins et d'y répondre. Et sur cet axe, sur cette rive droite du Rhône, oui, il y a un réel besoin aujourd'hui de services voyageurs de ferroviaire, parce que il y a l'engorgement déjà ferroviaire côté rive gauche sur les trains, je dirais classiques, et puis il y a un engorgement également routier, et puis il y a toutes nos problématiques de développement durable, de transition écologique, et en plus il y a une voie de chemin de fer. C'est pas une question de travaux, c'est juste une question de réaménagement particulier de gare pour avoir cette circulation. Et il y a des enjeux au niveau pour les salariés, pour monter, que ce soit côté sud, mais côté nord aussi, côté Lyon. Il y a des besoins pour les salariés, mais il y a aussi des besoins pour les étudiants, pour les précaires, les privés d'emploi, et aussi pour les personnes âgées dans un contexte d'accès à la santé. Les hôpitaux, ils sont côté sud, côté Nîmes, et ils sont côté Lyon pour la partie nord.
Et est-ce que vous portez ce projet tout seul ou la CGT travaille avec d'autres ?
Alors la CGT travaille avec un certain nombre de collectifs et de collectifs d'usagers essentiellement. On travaille aussi avec toutes les structures CGT interprofessionnelles, les unions locales. Typiquement, le rassemblement de dimanche dernier au Teil était organisé par le collectif d'usagers avec la CGT, mais avec l'union locale CGT. Et il faut utiliser toutes les bonnes volontés dans ce... Et effectivement, donc on travaille avec les usagers, on travaille avec les élus politiques, même si certains changent un peu changent d'avis au gré des élections, parce que typiquement, on a entendu des choses dimanche dernier au Teil, c'était des propos aussi de circonstances dans le cadre d'élections. Mais nous, on a une revendication qui est claire déjà depuis 30 ans sur le sujet. Et la revendication aussi, c'est qu'on ne peut pas couper la rive droite, enfin en petits bouts, ouvrir une partie au sud, après une partie aussi, puisque il y a une réflexion sur la partie Auvergne-Rhône-Alpes, d'ouvrir une partie de la rive droite aussi pour Romans, desservir Valenceville et TGV. Il y a aussi une étude qui va être lancée pour ouvrir à partir de Condrieu, sur plus au nord. Mais nous, la revendication de la CGT, c'est d'ouvrir l'ensemble du linéaire, comme on dit, l'ensemble de la rive droite. Alors pas pour faire du TER Montpellier-Lyon, parce que ça n'a aucun intérêt, mais il doit y avoir du trafic TER, il doit y avoir du trafic classique, les intercités, les trains d'équilibre du territoire, et puis également aussi les trains de nuit, qui sont aussi un sujet en ce moment dont on parle. Mais c'est l'ensemble du linéaire qui doit être ouvert, et pas tronçonner, ça a de la pertinence que si c'est ouvert sur l'ensemble de la rive droite du Rhône.
Pour finir, donc là tu parlais d'un rassemblement dimanche, est-ce que vous avez d'autres actions en cours ?
Alors pour l'instant, concrètement sur la problématique du Teil, puisque la réouverture elle est prévue le 29 août, hein. Donc c'est assez concret, là c'est le 29 août prochain, donc là il faut qu'on travaille concrètement, et là le rassemblement avait pour but de... que tout le monde dise que au Teil, on doit pouvoir faire monter et faire descendre des voyageurs. Et là, vraiment, pour le coup, désormais, le dossier est entre les mains et de la SNCF et côté SNCF Réseau, pour ce qui est de l'infrastructure de la voie, et aussi côté SNCF Voyageurs, côté TER Aura. Donc là, il y a une démonstration, je dirais, un peu de force. Les élus aussi politiques doivent prendre aussi, faire partie du sujet et porter les sujets auprès des bonnes personnes. Et on a promis effectivement que le collectif de s'engager sur d'autres manifestations et d'autres rassemblement. Mais là, on est vraiment... le collectif s'est exprimé, il a proposé un certain nombre d'actions. Et là, aujourd'hui, c'est les décideurs qui doivent être à la manœuvre.
Je te remercie beaucoup. Donc, bonjour Mariano, tu es militant CGT de l'Isère. La CGT fait partie du collectif pour la gratuité des transports sur la métropole de Grenoble. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait votre collectif ?
Alors d'abord, le collectif, c'est un collectif d'organisation, à la fois syndicats, partis politiques, associations. Donc il y a ATAC, il y a la FSU, il y a Solidaires, il y a la CGT, il y a le PCF, il y a la France Insoumise, il y a Ensemble. Donc chacun a un rôle bien particulier et on travaille bien ensemble depuis 2014, donc ça commence à faire. Donc le point de départ, c'était la gratuité des transports publics, mais je dirais d'un point de vue social, en disant oui, il y a un problème de transport, c'est cher, c'est pas forcément évident pour les gens de le prendre, etc. Et il se trouvait que c'était une promesse de campagne. Donc on s'est dit, bah, il va falloir pousser pour qu'elle devienne réalité. Et au fil du temps, on est resté sur cette question sociale, mais on s'est aperçu qu'il y avait les enjeux environnementaux qui sont montés, et on a acquis la conviction qu'en fait la gratuité, c'était une manière de répondre à la fois aux enjeux sociaux et aux enjeux environnementaux, et que ça portait une sorte de projet de société. Alors c'est un peu, comment dire, clinquant comme ça, mais c'est surtout que c'est une manière de vivre ensemble qui est portée par la question de la gratuité, une manière de partager la ville, de partager les transports, de contribuer à ce que chacun puisse vivre correctement.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous travaillez concrètement ?
Alors concrètement, on a déjà des réunions à peu près une fois par mois. On essaie de se voir et de discuter. Et évidemment, on n'est pas toujours d'accord, on n'est même souvent pas d'accord sur telle et telle chose. Et c'est les débats qui nous font bouger et qui nous font aboutir à des propositions qui sont partagées. Et après, une fois qu'on a des propositions qui sont partagées, ben on les met en écrit, soit sur des documents qu'on utilise, soit en tract, soit des conférences de presse, on fait des interpellations, on essaye de faire des débats publics et d'aller vers les citoyens, les usagers, les salariés, pour faire partager l'affaire. Et au bout du compte, le bilan, c'est qu'au bout de 6-7 ans, la question de la gratuité, on sent qu'elle est montée dans l'opinion. Alors qu'au début, on sentait bien quand on allait sur les marchés, qu'on distribuait, que les gens n'y croyaient pas ou trouvaient que ce n'était pas faisable. Là, maintenant, on a un accueil qui est assez favorable. On entend même la gratuité dans les transports. Les gens, ils en parlent de temps en temps. On arrive à ce genre de choses. Et on est devenu des interlocuteurs incontournables pour les pouvoirs publics. Alors après, ils sont d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Mais quand on demande à être reçu ou quand on fait des interventions publiques, on ne peut plus être ignoré, ce qui était le cas quand même un peu au début. On ne nous oppose plus d'arguments un peu bidons sur la question. Maintenant, ils savent qu'on travaille, on sait quoi faire. Ça, c'est le premier aspect qui est quand même important. Le deuxième aspect, c'est qu'au sein même des organisations qui constituent le collectif, le débat a évolué. Il y avait des tensions, il y avait des discussions, des élus qui pouvaient être d'accord, pas d'accord, etc. Et ces échanges internes et avec les élus ont fait bouger les positions. Et ça aussi, c'est intéressant. Enfin, ce qui me semble important, c'est que là, nous, alors là, on est en train de mener une campagne nationale sur la gratuité des transports publics parce qu'on s'est mis en coordination nationale. Alors, il y a des collectifs qui se sont montés dans une douzaine de villes qui ont chacun une configuration différente. Parfois, c'est des collectifs de citoyens. Parfois, c'est des collectifs d'organisation. Bon, ça dépend des lieux. Et là, on est dans le même processus. Et c'est intéressant parce qu'on est parti de prémices différentes. On avait des réflexions différentes et on a des débats. Et par exemple, sur la question transport urbain, transport ruraux, il y a des collectifs qui sont sur des zones rurales. Ça nous a mis en avant la question, la nécessité de travailler sur ça veut dire quoi les questions rurales. Par exemple, de faire émerger la notion des gares comme centre de vie et que c'est important et que la bataille qui est menée par les cheminots contre les suppressions d'emplois dans les gares, c'est aussi une bataille pour que le territoire y soit habité autrement. Donc ça, c'est le genre de choses qui viennent à jour parce qu'on discute les uns avec les autres. Et sur, par exemple, la zone faible émission, nous, on s'était alarmés dans l'agglomération grenobloise. On s'est aperçu que le problème se posait identiquement à Rouen, à Strasbourg, mais que les réponses n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et on est en train d'échanger sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on demande, comment on intervient sur cette question-là. Donc c'est très intéressant parce que c'est toujours en mouvement et toujours en débat.
Je te remercie beaucoup. Nous vous remercions pour votre écoute. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, n'hésitez surtout pas à fouiller dans les différents sites CGT, celui de l'UIT, celui de la Fédé des cheminots et bien sûr celui du comité régional où vous retrouverez par exemple la convention TER alternative que nous avions construite. Merci aux camarades qui ont accepté de nous répondre. Nous étions deux au micro, Agnès Naton et Karine Guichard. Et bien entendu, nous ne nous quitterons pas sans notre traditionnelle poésie. Et restez à l'écoute pour notre prochaine émission.
Voyage. Anna de Noailles. Un train siffle et s'en va, bousculant l'air, les routes, l'espace, la nuit bleue et l'odeur des chemins. Alors, ivre, hagard, il tombera demain au cœur d'un beau pays en sifflant sous les voûtes. Ah, la claire arrivée au lever du matin, les gares, leur odeur de soleil et d'orange, tout ce qui sur les quais s'en mêle et se dérange, ce merveilleux effort d'instable et de lointain. Voir le bel univers, goûter l'Espagne ocreuse, son tintement, sa rage et sa dévotion. Voir, riche de lumière et d'adoration, Byzance, consolée, inerte et bienheureuse. Voir la Grèce, debout au bleu de l'air salin. Le Japon, en vernis, et la Perse, en faïence. L'Égypte, au front bandé d'orgueil et de science. Tunis, ronde et flambant d'un blanc de kaolin. Voir la Chine, buvant aux belles porcelaines. L'Inde jaune, accroupie et fumant ses poisons. La Suède, d'argent avec ses deux saisons. Le Maroc, en arceau, sa mosquée et ses laines.